Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin.
Deuxième nuit, musiques et voix du monde arabe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h du matin pour une deuxième nuit consacrée aux musiques et aux voix du monde arabe. Dans la deuxième partie de cette nuit, nous serons en compagnie de la musicienne palestinienne Camilia Joubran. Mais c'est avec vous, Waed Bouassoun, que nous allons ouvrir ce deuxième voyage qui nous mènera de Bagdad à Grenade, du Machrek au Maghreb, des chansons populaires d'Égypte au Gnawa du nord de l'Afrique, des sons et des voix de l'absolu soufiste à l'étoile bédouine Shira Remiti, en passant par la musique libanaise. Waed Bouassoun, bonsoir.
Bonsoir, heureuse d'être avec vous.
Waed Bouassoun, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent un tant soit peu aux musiques du monde arabe savent que vous en êtes l'une des plus grandes voix. Pour les autres, moins familiers de ces musiques, cette nuit sera l'occasion de mieux vous connaître, d'entendre à travers vous, de la Syrie, autre chose que des sombres récits journalistiques, de faire taire un moment les canons pour écouter le son de votre voix, celui de votre oud et la poésie qu'il nous chante. Puisque non contente d'être une artiste de renommée internationale, vous avez également de la musique une connaissance d'ethnomusicologue, votre présence cette nuit nous aidera aussi à découvrir la variété et les subtilités des musiques de ce vaste monde arabo-musulman, même si, bien sûr, Waed Bouassoun, nous nous garderons de prétendre ici pouvoir en faire le tour. Et pour commencer, nous vous écoutons.
ليس يدري الغير ما طعم الهوى ليس يدري الغير ما طعم الهوى إنما يدريه ما يدريه من ذاق الهوى
d'entendre Waed Bouassoun.
C'est un poème de Ibn Arabi, le grand poète mystique qui est né à Murcia et mort à Damas. S'appelle La Passion. Et j'ai appris beaucoup de Ibn Arabi. Il ne faut pas dire un poème de Ibn Arabi et juste rester sur le sens extérieur, mais il y a quelque chose. C'est donc l'intérieur qui est l'essentiel. Donc il y a cette jouer sur l'extérieur et l'intérieur, et il y a toujours quelque chose de profond chez lui. Et si une pensée différente de voir les choses ou de dire.
Et que dit le texte de cette chanson ?
Je ne peux pas traduire exactement parce que c'est très difficile. Il y a la passion. Et donc, c'est ce mot-là, il peut avoir plusieurs sens si on dit al-hawa en arabe. C'est plus fort déjà que l'amour. Et parfois, on a, chez Ibn Arabi, ou dans la musique, il y a que des choses que je peux pas, on peut pas donner des explications, mais alors avec la musique, la chant, la voix, on peut s'exprimer.
Comment définiriez-vous, comment décririez-vous la musique que vous faites?
Ça, c'est je laisse à chaque fois quand je donne des concerts au public de voir les choses, parce que pour moi, déjà, je fais quelque chose que j'aime à faire. Mais aussi, je cherche toujours de mettre la poésie en musique. Déjà, je mets une mélodie qui sert le sens de la poésie. Mais aussi, pour moi, c'est très important, c'est une mélodie qui touche l'âme, qui touche mon âme. Et aussi, en ce moment, elle peut toucher l'âme du public. J'essaye d'amener le public avec moi dans mon atmosphère. Cette atmosphère, je peux le dire que c'est une atmosphère qui est toujours où il y a la curiosité de découvrir l'autre, d'enrichir mes pensées, et pour toujours, parce que quand j'apprends toujours, il y a cette lumière qui allume mon chemin.
Et où puisez-vous les textes de vos chansons, Waed Bouassoun?
Le texte de mes chansons, déjà, je cherche. C'est-à-dire, je peux pas présenter un texte sans lire déjà sur le poète, la vie de la poète. Qu'est-ce que lui a voulu dire derrière ce texte, ou comment lui il voit le chose dans la vie quotidienne, ou comment elle pense les choses, surtout dans la poésie mystique. Et après, parfois, je trouve un poème qui, tout de suite, elle m'indique la mélodie ou que je dois le mettre. Donc, parfois, il y a cette, on peut dire, correspondance ou il y a cette dialogue sans parler entre la poésie et mon âme, entre la musique et moi-même. Donc pour cela, parfois, je n'ai pas besoin de parler.
Et comment dire l'importance du texte, de la poésie surtout, l'importance du lien de la poésie avec les musiques arabes?
Si on peut parler de la musique arabe, il faut dire que c'est toujours la première qui vient en première, c'est le mot, c'est la poésie. Et il y a, même si on déclame un poème, la manière qu'on déclame ce poème, on peut pas déclamer comme on parle de la vie quotidienne. Donc il y a toujours cette ligne mélodique. Et en fait, la poésie arabe, c'est pour moi, c'est la poésie chantée. C'est né ou crié pour être chantée. Et c'était toujours cette poésie était un véhicule pour transmettre histoire. Ou transmettre des histoires amoureuses, des histoires de la guerre, après la guerre, la souffrance dans la vie quotidienne, ou la pureté. Donc le mot, c'est très important. Et dès qu'on voit qu'il y a un poème qui a vécu très longtemps, c'est-à-dire c'est un poème qui a touché, ou resté dans la tête de plusieurs gens, et que c'est eux qu'ils ont fait circuler.
Transmis.
Voilà.
Dans quelle tradition votre musique s'inscrit-elle?
C'est des questions que moi, je ne peux pas préciser, parce que c'est toujours c'est le public ou c'est les journalistes ou qui critiquent peut-être ma musique. Mais moi, j'ai toujours... ma musique est basée sur qu'est-ce que j'ai entendu depuis que j'étais petite chez ma famille. C'est-à-dire, je suis née dans une famille qui aime la musique. Il y a la musique traditionnelle de chez nous, du sud de la Syrie, mais il y a aussi cet répertoire de la musique arabe classique de l'année 30, 40, 50. Donc il y a mon père qui aime beaucoup Esmahan Farid Al-Atrash. Il y a mon oncle qui aime aussi Umm Kalthoum. Donc d'écouter ça depuis l'enfance, ça m'a donné une base sur laquelle je m'appuie pour mettre la poésie en musique. Donc on ne peut pas négliger cette espèce qui vient de cette tradition ou cet héritage. Et aussi, moi j'aime bien aussi ajouter mon style de composer et mon style de chant et peut-être comment je pense la vie.
Vous êtes instrumentiste, chanteuse, compositrice. Quel a été le parcours, la formation qui a fait de vous une des grandes voix du Machrek, du Levant?
C'est déjà, il y a le talent, il y a la science, il y a le apprendre, travailler, et il y a. Donc c'est un travail qui, je suis pas arrivée un jour, le lendemain. Donc, par exemple, je suis arrivée en 2010 en France pour faire des études. Mais comme j'ai recommencé de zéro ici, donc jusqu'à 2015, où je repris mon débat. Donc, c'est un travail aussi. Il faut dire que je suis toujours bien entourée par des gens ici, même en Europe, qui m'aident à comment je présente moi-même. Et c'est parce que quand je change le milieu, c'est très important aussi d'adapter plusieurs choses. C'est peut-être les codes de la nouvelle culture où je vis. Donc tout ça, ça m'aide à peut-être à monter doucement. J'aime pas faire quelque chose rapidement. J'ai la patience qui est très important pour arriver.
Et comment s'est passé votre apprentissage de la musique? Quels ont été vos maîtres pour le chant et comme instrumentiste, Wael Bouassoun?
Il y a toujours, il y a d'abord mon père qui m'a transmis de jouer le oud à l'âge de 7 ans. Et donc ça c'est la première ambiance qui était très importante, c'était ouvert et j'avais la liberté de l'âge de 11 ans de partir et participer aux petits concerts en Syrie, c'est-à-dire d'être en débandant, dormir dehors de...
Loin de la famille.
Voilà, donc c'était bien, je trouve que mon père m'a donné ça depuis que j'étais petite, même que je suis née dans un petit village. Et aussi, il m'a donné la liberté de choisir qu'est-ce que je veux faire. D'aller à Damas et faire les études au conservatoire. Après, pour le chant, il y a plusieurs chanteurs et chanteuses comme Umm Kalthoum, comme Esmahan. Et il y a aussi le grand cheikh, si on peut dire, de Mouazzen, qui est aussi, il y a le confrérie Sophie, qui voilà, j'écoute beaucoup parce que elle me donne beaucoup de choses. Et pour l'instrument, les personnes qui m'a donné peut-être de réaliser que le silence compte beaucoup dans la musique, c'est Mounir Bachir, parce que ce moment de silence, je garde toujours de le faire. C'est pour moi, c'est un respect pour le public, parce qu'elle donne pour le public quelques secondes pour recevoir la musique et pour aussi enchaîner avec le musicien. Et aussi pour le silence, c'est quand on fait avec la musique, peut-être c'est un moment qui est le plus cher avec la musique.
Nous entendrons d'ailleurs Mounir Bachir dans une des archives au programme de cette nuit. Qu'est-ce qui fait de lui, dans son jeu, un des grands maîtres du oud? Le silence, mais encore.
Je crois que c'est le premier qui a présenté cet instrument public ici en Europe, comme donner un concert en solo avec l'instrument. Donc c'était le premier. Donc c'est lui, parce que toujours cet instrument était comme un moyen pour traduire ce que le compositeur qu'ils ont composé pour Mkaltoum, par exemple, comme Kassabji, Sombati, ou d'autres comme Farid Atrash. Cet instrument, c'était leur aide à mettre la poésie en musique. Mais donner un rôle essentiel sur scène, c'était fait par Munir Bashir. La façon qu'il, lui, elle fait comme sa musique, pour moi, c'est une sorte de méditation sur scène.
Du oud, vous dites qu'il est votre compagnon. Parlez-nous de cet instrument. Que représente-t-il pour vous et que représente-t-il donc dans les musiques arabes?
Le oud, c'est un instrument qu'on trouve partout dans le monde arabe. Et pour moi, c'est un instrument où je suis née, par exemple. On le trouve dans chaque maison. Peut-être c'est un instrument qui est pas cher à acheter, qu'on peut l'acheter facilement. Mais il y a aussi, au sud de la Syrie, il y a cet instrument, elle devient comme un symbole. Si on part au sud de la Syrie, il y a deux symboles. Il y a une personnalité qui s'appelle Sultan Bash al-Atrash et il y a cet instrument. Parce qu'il y a le frère de Asmahan qui est né au sud de la Syrie. Et aussi, c'est un instrument qui a sa place dans l'orchestre arabe. Il y a toujours sa place. Et cet instrument, peut-être c'est pour moi une personne. C'est pas seulement un instrument, parce que c'est la seule qui peut traduire ce que je veux dire. Et c'est un ami, c'est un amour. Elle est toujours à côté de moi. Même quand je travaille un moment pour ma thèse, elle est toujours à côté de moi sur le même canapé. Donc on se parle.
Votre voix dans votre musique et plus largement dans les musiques arabes, la voix est-elle le premier instrument de ces musiques?
Oui, bien sûr, parce que il y a toujours le fait de chanter le Coran avec seulement la voix. Même dans le confrère Soufi, il y a juste parfois la voix, sans des percussionnistes, sans rien. On tape juste avec les mains. Donc il y a toujours, on a la poésie en première, mais on a aussi la beauté de chaque voix. Avec la poésie et la voix, ça, c'est le paradis qui touche notre âme.
Vous parliez de soufisme, vous chantez la poétesse Rabia al-Adawiya, une des figures féminines majeures du soufisme médiéval. Il y a une dimension très importante dans les musiques arabes, le tarab. Qu'est-ce que le tarab, Waed Bouassoun?
Pour moi, le tarab, c'est-à-dire on arrive à un moment peut-être d'extase ou de transe, parce que quand on écoute, on voit. Et ok, je suis chanteuse, mais peut-être je ne me considère pas que je suis arrivée à faire cet état de tarab. Et cet état de tarab, on le fait, peut-être tout le monde arabe peut le dire qu'on est arrivé avec Om Kaltoum à cet état. Et le moment qu'on on oublie, on reste sur les effets de sa voix, par cet état de tarab. Et comme on a hors conscience et on voyage avec ce voix loin et c'est donne un état de plaisir, on peut pas le décrire.
Comment Waed Bouassoun se présente-t-elle sur scène, entourée de quels instruments, entourée de quelles formations et de quel genre d'orchestre?
J'ai beaucoup de présentations sur scène. Il y a moi et mon oud en solo. Et il y a maintenant avec un joueur de naï flûte, Muslim Rahal, qui présente la poésie dialectale du sud de la Syrie. Et j'ai déjà donné plusieurs fois des concerts avec un groupe de 5 musiciens. On a donné un répertoire de la musique arabe classique, comme Mkaltoum, des chants traditionnels du nord de la Syrie. Et actuellement, je travaille aussi avec Jordi Saval, nous sommes parfois une vingtaine de musiciens de vingtaine de pays sur scène, où il y a que la musique. Et donc, Il y a plusieurs présentations, mais chaque présentation a une place différente chez moi.
Quelle doit être, selon vous, la relation du chanteur avec le public? Quelle relation essayez-vous de créer vous-même avec le public?
Moi, j'aime toujours chanter pour moi et pour le public, pour le plaisir. C'est le plaisir de partager ce moment ensemble. Et parfois, j'aime bien avoir cette relation directe avec le public, sans avoir dans mes pensées qu'il y a une scène, il y a un public, un stage. Donc j'aime bien, par ma musique, parler au public et dire que nous sommes, on passe une soirée familiale. Et c'est la musique, la seule moyen qui peut nous réunir. Malgré nos différents points de vue.
Pourquoi terminez-vous parfois vos concerts en France par une chanson en français?
Parce que déjà, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, ça fait un moment que je suis en France et ça m'a beaucoup plu de connaître maintenant. Peut-être maintenant j'ai commencé à oser de chanter en français parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas tout de suite chanter en français. Sans connaître les codes de cette langue et sans aussi connaître comment on peut présenter une chanson au public français. Et aussi, j'aimerais bien qu'on termine quelque chose, on fait quelque chose tous ensemble.
Vous aimez faire participer le public?
Oui, oui. J'aime beaucoup et ce sera mon intention pour les prochains projets.
Quand et dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvée en France, à Paris?
Moi, j'ai choisi en 2010 de venir ici et continuer mes études en ethnomusicologie parce que j'étais invitée à plusieurs concerts, plusieurs festivals où il y avait des conférences ou tables rondes avec des ethnomusicologues sur la musique dans le monde arabe ou dans le monde islam. Et j'étais intéressée par cette discipline et j'ai commencé à chercher. Et un moment après avoir terminé mes études à Damas, je me suis sentie que maintenant je dois apprendre quelque chose de nouveau parce que je me sens que je peux pas rester sans enrichir. Et c'était très bien de choisir ce chemin et de décider de venir ici, même malgré la difficulté de apprendre la langue française quand je suis arrivée. Mais avec le travail, il n'y a aucune difficulté. Si on travaille, et on avance. Et m'a donné cette étude une autre pensée d'avoir la musique ou de penser la musique et d'accepter l'autre aussi.
Quel est votre objet d'étude?
Moi, je travaille sur le rituel funéraire chez les Druzes du sud de la Syrie.
Vous accordez beaucoup d'importance au regard extérieur sur les musiques arabes. Comment la musicienne, la chanteuse que vous êtes, perçoit-elle la place des musiques arabes en dehors du monde arabe et plus précisément ici en France?
Bon, en France, on ne peut pas négliger qu'il y a une diversité culturelle très vaste. Il y a quand même beaucoup de musiciens, de chanteuses dans tout le monde arabe qui se trouve ici, ou même pour eux c'est très important de venir et donner un concert en France parce qu'ils savent très bien que la France c'est la culture de l'autre et la France a donné beaucoup de place et toujours j'espère qu'on tient cette attention d'avoir et de présenter la culture de l'autre et surtout la musique arabe. Il y a toujours cette on peut dire une manifestation culturelle. Il y a toujours une place pour la musique arabe dans tous les festivals. Il y a aussi au sud comme le festival d'arabesque qui sont attention de aider les artistes arabes qui se trouvent en France ou d'inviter de artistes arabes jeunes dans le monde arabe pour présenter leurs projets et aussi pour peut-être mettre une petite lumière sur la beauté qui se trouve dans ce monde malgré la situation actuelle.
Vous voyez la musique comme un moyen de dialogue avec l'autre, un moyen de dialogue entre des cultures a priori éloignées. Est-ce dans cet esprit que s'est faite la rencontre avec Jordi Savall? Pouvez-vous d'ailleurs nous parler du travail que vous menez avec lui?
Moi, pour moi, j'ai la chance de avoir cette opportunité pour travailler avec lui. J'ai jamais trouvé, jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu une personne comme lui, à part qu'il est musicien, un grand musicien, qui est très connu, très célèbre dans le monde entier. Mais quand on travaille avec lui, on sent pas qu'il y a une distance entre lui et nous. Et nous sommes toujours comme une famille, où il y a une âme joyeuse avec laquelle on travaille, on fait quelque chose de beau, toujours. Et son regard vers l'autre, aussi de donner toujours une place pour chaque musicien qui vient et nous joindre notre famille, il y a toujours mettre l'autre en valeur. Alors parfois qui donc cette générosité m'a touché beaucoup de travailler avec lui et de trouver qu'il y a toujours une place pour un musicien. Et par contre, il faut pas avoir un ego sur scène. Il n'y a pas de diva sur scène.
Et quelle est l'importance, le sens pour vous de ces interventions avec Jordi Savall au sein d'Orpheus 21?
Bon, on travaille avec Jordi déjà. C'est comme vous avez dit, le seul moyen de faire un dialogue avec l'autre, c'est par la musique. Et Orpheus 21, Jordi a l'intention de relancer ce projet pour donner un espace pour tous les musiciens qui arrivent en Europe. De musiciens réfugiés ou migrés, professionnels, qui ont une place très connue dans leur monde, dans le monde ou dans leur pays. Et maintenant, la prochaine étape, comment se trouver ou comment trouver une place, hein, comment commencer de zéro. Pour eux, c'est très difficile parce qu'il y a un milieu différent, un milieu culturel et aussi apprendre la langue. Donc, il y a aussi comment penser, présenter leur musique traditionnelle pour un public qui ne comprend pas la langue. Donc, Jordi leur aide à donner des concerts dans des lieux assez prestigieux. Après, on va faire un CD avec eux. Et donc, ça leur permet aussi de trouver un travail. Et deuxième chose aussi, de transmettre leur répertoire oral aux enfants aussi qui sont arrivés en Europe. Et parfois, ces enfants qui sont arrivés en Europe, mais ils ont vécu plusieurs choses difficiles pour arriver ici. Donc aussi, peut-être c'est la musique comme un remède et comme un moyen aussi de leur permettre d'intégrer dans la nouvelle société dans laquelle elles vivent.
Waed Bouassoun, être une femme arabe, syrienne, musicienne, chanteuse dans le monde arabo-musulman d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Pour moi, donc je suis née dans un petit village et j'ai continué mes études à Damas, donc je vivais seule. Donc je n'avais pas de difficulté de penser que je suis une femme et je voyage beaucoup, même quand j'étais en Syrie. Donc j'avais la même place comme une femme que maintenant en France. Dans le monde arabe, donc je reçois des invitations pour participer au festival. Mais après, peut-être pas seulement comme une femme, quelle est la place de musicien et de musique dans le monde arabe en ce moment-là. Parce qu'avec la guerre, avec cette pensée extrémiste, ou on peut dire terroriste. Donc, oui, la musique, il n'y a pas de place. Mais je trouve que la musique ici a son rôle. La culture, l'art et la recherche. Tout ça, c'est le seul moyen de défendre et de combattre. Et de gagner ce combat contre toute cette guerre qui est déclenchée dans le monde arabe.
Comment la musique, la poésie pourront-elles survivre à ce que traverse la Syrie depuis maintenant de longues années?
Parce que la musique, c'est l'âme. Il y a à Alep, par exemple, les gens de Alep, ils ont habitué de faire chaque jeudi soir une soirée dans la vieille ville de Alep, parce que elles peuvent pas vivre sans cette musique. Elles peuvent pas vivre, contenir leur vie sans faire la musique. Et malgré maintenant la situation, il y a beaucoup de musiciens qui sont toujours à LM et toujours garder cette actualité musicale. C'est très difficile. On peut pas résumer ça en quelques mots. Mais il y a toujours la musique qui a aidé beaucoup de gens à continuer, à résister.
Oued Bouassoun, merci beaucoup.
Merci.
Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette deuxième nuit des musiques et des voix du monde arabe. Dans un instant, « Ô ma nuit, ô mon œil », chanson populaire d'Égypte, un numéro de la matinée des autres proposé par Simone Dweck en 2000, puis « Des sons et des voix dans la quête de l'absolu », deuxième temps de la série « Musique et soufisme » de Daniela Langer pour « Les chemins de la musique » en 2003, et enfin « L'Odyssée du Oud » de Bagdad à Grenade, première partie, « Bagdad sous embargo au son du Oud » par Toufik Hakem dans Les chemins de la musique en 2002. Nous retrouverons Camilla Joubran dans un peu plus de 2h30 pour la suite du programme de la deuxième nuit Musiques et voix du monde arabe sur France Culture. Nous nous quittons en vous écoutant chanter Sultan, un chant traditionnel du sud de la Syrie, extrait de votre album La voix de la passion, accompagné par Moslem Rahal à la flûte naï. Merci Oued Bouassoun.
Merci, merci à vous.
حياك علم اللفان اليوم من صربتن من صربتن بديرة الريان يا طير يلي بالمنايا تحوم هود على اللي بالوطن خواه يا 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 طير يا طير يلي بالمنايا تحوم ها على اللي بالوطن خوان الطال ظهر السبا يدوم ومن فوق ضمر كلهم عقبا ظهر السبايا دو من فوق ضمر من فوق ضمر كلهم عقبان يا ديرتي يا ديرتي يا مالك علينا لوم لا تعتبي لومك على من خاف يا يا ديرتي يا ديرتي مالك علينا لوم لا تعتبي لا تعتبي لومك على من خان حنا روينا سيوفنا من القوم وما نرخصك مثل العفن بثمان